VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, il est midi à N'Djamena. Bonjour à tous. Le pouvoir tchadien dénonce les pressions de Washington exhortant le gouvernement de N'Djamena à organiser des élections législatives crédibles, maintes fois reportées depuis 2015, estimant qu'il s'agit d'une affaire strictement interne. Au pouvoir depuis 29 ans, le mouvement patriotique du salut, MPS, a vivement critiqué les injonctions étrangères appelant le gouvernement à assumer ses responsabilités pour la tenue de ce scrutin. Des législatives doivent avoir lieu en 2019, mais aucune date n'a été fixée. Les élections relèvent de la souveraineté d'un État, a martelé ce week-end à Bongor, dans le sud du Tchad, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zezen Bada. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Thibault Onage, doit se rendre dans les prochains jours au Soudan pour appeler l'armée au pouvoir. Les représentants de la contestation à la reprise du dialogue a annoncé lundi le département d'État américain. Sa visite à Khartoum est prévue au cours d'une tournée africaine du 12 au 23 juin. Les États-Unis ont condamné la semaine dernière les attaques contre les manifestants qui réclament le transfert aux civils du pouvoir après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril, remplacé par une junte militaire. État des lieux au deuxième jour du mouvement de désobéissance civile. Sur place hier à Khartoum, notre correspondante Patricia Huon.
C'est une deuxième journée ville morte à Khartoum. Les meneurs de la contestation civile ont appelé à une grève générale à partir de dimanche et le mot d'ordre est largement suivi. Aujourd'hui, dans les rues, une légère reprise d'activité. Mais presque tous les commerces restent fermés, à de rares exceptions près, comme de petits magasins d'alimentation ou cette boulangerie.
Les gens doivent se nourrir. Et moi aussi, personnellement, j'ai besoin de mon salaire. Je suis payé à la journée. Mais si les gens veulent faire grève, je les soutiens.
Dans la capitale soudanaise, beaucoup survivent au jour le jour. Pour eux, une journée sans travailler, c'est une journée sans salaire, parfois sans manger. Combien de temps le mouvement de grève peut-il tenir dans ces conditions? Devant un rare supermarché ouvert, une femme évoque la difficulté de ravitailler sa famille.
Ce n'est pas facile de faire des provisions en ce moment. Tout est fermé et les prix restent très élevés. J'ai pu acheter de quoi tenir une semaine, mais après, je ne sais pas ce qu'il va se passer.
Dans les rues, l'armée est toujours bien visible, tout comme les paramilitaires, des forces de soutien rapide, accusées du massacre du 3 juin devant le quartier général de l'armée. La répression de la protestation se poursuit. Hier matin, des jeunes s'étaient rassemblés autour de barricades faites de briques et de branchages, érigées dans les ruelles de plusieurs quartiers. Selon des témoins, la police a ouvert le feu. Un jeune homme a été abattu.
Ils avaient commencé à placer des pierres sur la route pour faire une barricade. Ils n'étaient pas armés, mais la police est venue avec des armes. Elle a tiré. C'était intentionnel. La balle a atteint ici, sous la tête. C'est terriblement triste.
Beaucoup d'habitants restent cloîtrés chez eux par prudence. L'immense majorité continue de prôner une résistance pacifique, mais certains ne contiennent plus leur colère.
Il y a déjà eu un massacre. Ils violent des femmes, ils tuent des enfants. Ce n'est pas un combat égal. Ils ont le soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes. Tout ce que j'ai à dire au monde, c'est donnez-nous des armes. Tous ceux qui sont ici savent se servir d'une arme. Ce qui se passe ici n'a rien de pacifique.
C'est un bras de fer inégal qui se joue entre civils et militaires. Pour l'instant, peu de signes laissent présager une possible reprise des discussions. Patricia Huon, Khartoum, pour VOA Afrique.
Et Khartoum vit toujours au ralenti. Au troisième jour aujourd'hui de la désobéissance civile, commerces et entreprises sont restés fermés ce mardi. La contestation entend maintenir la pression sur le conseil militaire de transition malgré la répression pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Le pays a été presque totalement coupé du monde lundi avant le rétablissement dans la nuit des lignes de connexion Internet de Soudatel, le principal fournisseur d'accès au Soudan. Le Gabon a un nouveau gouvernement depuis hier, quelques semaines après la révélation d'un trafic de bois précieux qui a provoqué un scandale politique dans le pays. Il s'agit d'une équipe restreinte rendue publique par le cabinet présidentiel. Elle passe à 28 membres contre 38 pour le précédent cabinet Des détails à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiang-Nze.
Dans son ossature dévoilée par le secrétariat général de la présidence de la République, le nouveau gouvernement gabonais se caractérise entre autres par le jumelage de quelques ministères. L'intérieur rejoint la justice, les solidarités nationales s'associent à l'économie et aux finances. Autre fait, le nombre de ministres délégués est ramené à 6 contre 8 dans la précédente équipe. Une dizaine de sorties, de retours et 3 nouveaux visages sont à signaler. Des jeux de chaises musicales et des départs presque inattendus complètent ce tableau. Il en est ainsi de Franck Guéma qui sort de l'environnement et du plan climat pour la jeunesse et les sports, poste qu'occupait Alain-Claude Bilibinzé, devenu ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Régis Imongo. Ali Bongo Ndimba a souhaité un cabinet restreint pour conduire sa nouvelle gouvernance économique et sociale, une vision basée sur la moralisation de la vie publique et l'accélération des réformes de l'État. Autant dire que pour l'acte 2 de son récent discours à la Nation, il vient d'être servi par son premier ministre. Ismaël Obiang-Nze pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président ivoirien Henri Conan-Bédié a dénoncé hier un mauvais procès après la condamnation par le gouvernement de ses propos contre les étrangers à 16 mois de l'élection présidentielle. Irénée Armanoumbo.
Le gouvernement a délibérément choisi des morceaux des propos du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, propos sortis de leur conteste pour en faire une exploitation tendancieuse, a affirmé le chargé de la communication du PDCI Jean-Louis Billon. Il a dénoncé le laxisme des autorités face aux problèmes évoqués par le président Bédié, les conflits intercommunautaires récurrents, leur paillage clandestin et des nombreux cas de fraude selon lui sur l'identité ivoirienne. Le gouvernement ivoirien a condamné les propos appelant à la haine de l'étranger tenus par l'ex-président 3 jours plus tôt, rappelant les récentes et meurtrières violences intercommunautaires dans le centre du pays. On fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela, a déclaré le président Bédié devant des délégués de son parti dans sa résidence de Daoukro. Dans une vidéo diffusée sur le site internet du PDCI, M. Bédié incrimine des étrangers armés présents en Côte d'Ivoire. Le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert d'orpaillage, a-t-il insisté.
Une attaque a ravagé un village d'Ogon du centre du Mali où le cycle d'atrocités entre communautés, désormais antagonistes, menace l'existence même du pays, a affirmé lundi le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le bilan provisoire établi par une mission du poste de sécurité de Diankabou dans les environs fait état de 95 morts et de 19 portés disparus, a précisé le gouvernement malien dénonçant un carnage. Ce n'est pas un cycle de vengeance, de vendetta que ce pays doit être conduit, a déclaré à la télévision publique le président malien en Suisse pour le centenaire de l'Organisation internationale du travail, OIT, annonçant aussitôt qu'il écourtait son séjour. La haute cour du Botswana a décidé aujourd'hui de décriminaliser l'homosexualité interdite dans le code pénal du pays datant de 1965 et qualifiée de relique de l'ère victorienne par un juge. La haute cour s'est prononcée sur ce sujet sensible sur requête d'une personne anonyme identifiée seulement par ses initiales LM pour des raisons de sécurité qui contestaient le code pénal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et hors du continent, le président américain Donald Trump s'est dit prêt lundi à imposer de nouveaux tarifs douaniers sur les produits chinois s'il ne parvenait pas à faire des progrès dans les négociations commerciales qu'il entend avoir avec son homologue chinois Xi Jinping lors du sommet du G20. Ce sera à la fin de ce mois. Depuis les dernières discussions qui ont échoué le mois dernier à Washington, Donald Trump a indiqué à plusieurs reprises qu'il s'attendait à rencontrer le président chinois les 28 et 29 juin lors du sommet du G20 à Osaka. La Chine n'a pas confirmé pour l'instant une telle rencontre. Des dizaines d'entreprises et de commerces hongkongais ont annoncé aujourd'hui leur intention peu commune dans l'Est colonie britannique de fermer leurs portes demain mercredi pour protester contre le projet très controversé du gouvernement local d'autoriser les extraditions vers la Chine. Par ailleurs, la Chine a dénoncé aujourd'hui les propos irresponsables et erronés des États-Unis après les inquiétudes exprimées par Washington. Nous appelons les États-Unis à être prudents dans leurs paroles et leurs actes et à ne plus s'ingérer dans les affaires de Hong Kong et dans les affaires intérieures de la Chine sous quelque forme que ce soit, a déclaré lors d'une conférence de presse un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et pour terminer, Pyongyang a exhorté aujourd'hui Washington à en finir avec sa politique hostile à la veille du premier anniversaire du sommet historique le 12 juin 2018 à Singapour entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. La déclaration commune de Singapour, qui était d'une très grande importance, est aujourd'hui sur le point de devenir un document mort, car les États-Unis évitent de le mettre en œuvre, a déclaré Pyongyang. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.